David Van Reybroek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre « Congo, une histoire », un ouvrage de plus de 800 pages. Et qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage ?
C'est un ouvrage historique qui raconte l'histoire de la RDC à travers plusieurs siècles, notamment le 20e, le 19e et le 21e siècle. C'est un livre qui se veut une histoire écrite d'en bas. Et donc il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'interviews pour pouvoir raconter l'histoire de ce pays gigantesque.
Nous ne saurons pas, au regard du temps qui nous a imparti, explorer ensemble tout le contenu de ces livres. Mais dites-nous, quelle est la période de l'histoire du Congo que vous jugez déterminante pour le sort actuel de ce pays ?
C'est une question très difficile qui nécessiterait une réponse très longue. Ce qu'on voit, c'est l'actualité congolaise est le fruit de plusieurs époques. Donc on ne peut pas dire c'est là où tout a mal commencé. On voit vraiment une accumulation de malheurs en quelque sorte. On voit notamment, ça commence déjà dans le 16e siècle avec la traite esclavagiste et ça continue à travers l'époque de Léopold II, la période coloniale, les aléas de l'histoire après l'indépendance. Et donc c'est vraiment une accumulation de plusieurs moments de difficultés mais aussi d'opportunités.
À partir de la page 591, vous parlez de l'histoire récente de la RDC, donc de 2002 à 2010.
Oui.
Pourquoi qualifiez-vous cette période de la bière, la prière et surtout la récréation?
Oui, ce sont les titres de derniers chapitres de ce livre. Il y a un chapitre qui s'appelle « La bière et la prière ». Et quelqu'un m'a posé l'autre jour, dans la halle de la Gombe, « Est-ce que vous pensez que les Congolais ne font que de boire et de prier ?» Non, ce n'était pas pour ça que le titre a été choisi. Le titre a été choisi pour indiquer l'époque après la guerre, l'époque de la transition. Et ce qu'on voit, c'est que nous nous retrouvons face à un Congo qui est extrêmement fragilisé suite à la guerre. Et on voit qu'à ce moment de vide, en quelque sorte, il y a des nouveaux acteurs qui vont s'imposer sur le réseau social qui est le Congo. La brasserie devient beaucoup plus que juste un vendeur de bière. Je montre jusqu'à quel point toute la culture, la visibilité et le rôle de Verrasson a été vraiment nourri par cette prise de pouvoir, on peut dire, par le monde commercial. Et d'autre part, il y a la prière aussi. La prière, c'est aussi des nouveaux acteurs qui s'installent dans l'espace public congolais, justement par rapport aux églises de réveil, qui sont des nouveaux venus dans les années après-guerre. Donc tant que l'État est fragile, on voit qu'il y a des autres qui comblent le vide.
Et la récréation ?
Et la récréation, c'est justement une référence au fameux discours de président Kabila après la prestation de serment où il disait la récréation c'est terminé. Là maintenant il faut se mettre à l'œuvre. Ben, c'était juste le terme, c'est en 2006 qu'elle utilisait le terme, donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à l'appliquer. Disons l'accélération du Congo a commencé très lentement. Ce n'est que maintenant qu'on commence à avoir une certaine vitesse, je constate. Et donc, effectivement, entre 2006 et 2010, on voit quand même encore une mise en place de certains dispositifs, mais les défis sont énormes, donc la vitesse avec laquelle on restructure le pays a besoin de beaucoup de temps pour se mettre en place.
Au regard de vos recherches et des faits historiques que vous rapportez, comment voyez-vous l'avenir de la RDC ?
Je la vois de façon optimiste, mais optimiste de long terme, en quelque sorte. Le potentiel est toujours là. Quand on parle des potentiels économiques du Congo, on semble toujours parler du cuivre et du coton. Et je pense qu'il y a un potentiel en ressources humaines qui est plus important qu'en ressources naturelles. Il y a une toute jeune génération de Congolais qui sont brillants, qui sont intelligents, qui sont prêts à prendre leur sort en main. Et c'est quelque chose qui me rend extrêmement optimiste par rapport au futur de ce pays. Mais je suis suffisamment réaliste aussi. Je pense qu'il faut encore avoir, malheureusement, pas mal de patience.
Parlons un peu de la scientificité de votre ouvrage. Quelle méthode avez-vous utilisée pour attester la véracité de tous les faits que vous avez rapportés ?
Il y a toujours une combinaison de sources. Ce livre se documente sur une base scientifique très riche, c'est-à-dire que vous allez voir à la fin du livre, il y a une centaine de pages qui consistent de la bibliographie et l'appareil critique. Et le livre consiste d'à peu près 5000 ouvrages consultés, 5000 plus 500 interviews avec des témoins congolais.
Et pourquoi accorder autant de temps à écrire un livre de l'histoire d'un pays qui n'est pas le vôtre ?
Parce que le Congo appartient à ce monde. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous vivons la mondialisation. Et ça veut dire qu'un Afghan, un Congolais, un Péruvien et un Belge peuvent très bien faire un effort à se mieux comprendre.
Et certains de vos lecteurs estiment que vous écrivez cette histoire pour essayer d'améliorer un peu le comportement des colons belges. Parce que dans votre livre, vous ne parlez pas assez des méfaits de la colonisation.
Eh ben, je vais vous envoyer toutes les lettres que moi j'ai reçues de la part des vieux colons belges. Ce sont les lettres les plus critiques, les plus acerbes que j'ai reçues. Non, ce que je voulais faire, c'est d'écrire une histoire qui fait pas des jugements, mais qui travaille sur la compréhension. Et donc, je pense qu'il est important d'aller plus loin que de faire une lecture binaire, noir et blanc. Ceux-ci étaient des méchants, là c'était des bons. Et donc, à un moment donné, je me suis dit en écrivant ce livre, si tout le monde est un peu malheureux avec ce livre, c'est que c'est un livre nuancé.
Alors que donc faire pour se procurer de cet ouvrage ici à Kinshasa?
Ce qui est important, le livre maintenant est disponible en plusieurs langues et plusieurs pays, bientôt même en Chine, en chinois. Moi je me suis dit c'est quand même dommage si ce livre est vendu au Pékin et pas à Kinshasa. À Kinshasa c'est vendu mais c'est beaucoup trop cher. Et donc avec les bénéfices, j'ai cofinancé avec ma maison d'édition un tirage à part pour le lecteur africain. Il y a un conteneur qui arrive bientôt et c'est la librairie Grand Lac à Kinshasa et des autres endroits. Aussi des acteurs de la société civile qui ont acheté bon nombre d'exemplaires de ce livre pour rendre possible et accessible. Et je pense que là, le livre sera disponible pour un prix entre 10 et 15 dollars bientôt.
David Van Reybroek, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.